Merci beaucoup pour ce très brillant exposé. Et on fera les questions oui après. Et donc je vais demander à Robert Barouki de venir, qui est professeur de biochimie et directeur de recherche à INSERM. On a besoin de son expertise pour savoir quel niveau de preuve on a.
Il n'y avait pas un... Oui. Alors, ça doit être ça. C'est ça.
Oui, tout à fait. Okay, merci beaucoup. Merci pour l'invitation à faire cet exposé. Je pense, je vais commencer par une introduction un peu générale sur un effet fondamental en termes de pollution. Ce sont les effets chroniques. On vient d'en parler. Les effets qui apparaissent sur le long terme. C'est un aspect extrêmement difficile à expliquer hein, pour des toxicologues ou pour des épidémiologistes de donner des mécanismes d'effets qui apparaissent sur le long terme. Et tout à l'heure, le président de la mutualité a dit qu'un des problèmes donc dans la communication, c'est que les toxicologues n'arrivaient pas à bien expliquer leurs trouvailles devant le grand public, et donc ça peut créer des difficultés. Je partage assez cet avis-là, mais on va essayer un peu de faire mieux, ça met un peu la pression là. Bon. Donc on va essayer de commencer par comprendre quels sont les mécanismes par lesquels on peut avoir des effets qui apparaissent sur le long terme. Et il y a plusieurs mécanismes, il n'y en a pas qu'un. Il y a ce que j'appelle la toxicité par réitération, je vais m'expliquer, par persistance ou par programmation. Alors, c'est quoi la toxicité par réitération? C'est une toxicité donc, qui apparaît, là, ça c'est le temps, la courbe du temps, donc, où on a des expositions répétées. Donc ça, c'est on fume par exemple, on fume une cigarette, puis une deuxième, etc., répéter plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, etc., etc. Ou continue, ça peut être une exposition continue si on respire un air qui est contaminé. À chaque fois qu'il y a une exposition en aigu, hein, qu'on fume par exemple, il y a potentiellement une toxicité directe. Et puis un phénomène adaptatif, heureusement, hein, parce que sinon, heureusement qu'on sait s'adapter à certaines de l'arrivée de ces molécules. Et ce phénomène adaptatif peut essayer de régler le problème de la toxicité directe, mais en fait, on sait que ça peut avoir aussi des effets secondaires qui seraient négligeables si on n'avait qu'une exposition, mais qui, avec la répétition et pour des raisons sans doute stochastiques, le hasard, etc., peuvent, in fine, produire une toxicité sur le long terme qui serait la résultante soit de l'accumulation de toxicité directe, soit de l'accumulation de ces phénomènes adaptatifs qui ont des effets secondaires. Donc ça, c'est par exemple le tabagisme. C'est exactement ça. Si au bout d'un an ou deux, on arrête de fumer, ben, ça va mieux. Hein. En fait, on arrive à avoir un effet positif. Bon. Donc là, c'est une toxicité où on peut éventuellement faire quelque chose. La leçon aussi de ce type de toxicité, c'est ce qu'on appelle adaptation. Il faut savoir par rapport à quoi on se situe. Une adaptation, c'est quelque chose souvent de très utile en aigu. Ça vous permet de régler un problème par adaptation à un phénomène aigu dans cette acception du terme adaptation ici. Cependant, ce n'est pas parce qu'on a un phénomène adaptatif biologique que la répétition de ce phénomène adaptatif sur le long cours ne peut pas elle-même être à l'origine d'une toxicité chronique. Et c'est exactement d'ailleurs ce qui se passe pendant le tabagisme. On sait très bien métaboliser toutes ces molécules nocives du tabac, mais c'est leur métabolisme qui, au fur et à mesure, produit des effets secondaires qui se manifestent sur le long terme. Deuxième mécanisme de toxicité sur le long cours. Là, on est dans une situation un peu différente. On a une exposition qui peut être relativement limitée dans le temps. On a vécu pendant un an à côté d'un incinérateur où on a consommé un certain nombre de pendant un certain temps une alimentation contaminée. Donc il y a une exposition de court terme. Cependant, ça concerne souvent ce qu'on appelle des polluants persistants. Certains de ces polluants vont aller se loger dans le tissu adipeux, dans les masses grasses dont on a parlé tout à l'heure. Ils se logent et ils restent là. Ils sont persistants. Et ce n'est pas une année, c'est des années hein, de persistance. C'est le cas de la dioxine, c'est le cas des PCB, c'est le cas de certains pesticides. Et on sait qu'ils peuvent être libérés à partir de ce tissu adipeux. On a fait un travail avec Arnaud Badevin et Karine Clément où, au cours de l'amaigrissement, on a vu une augmentation de la libération de ces polluants dans le sang des personnes qui maigrissaient. Donc, là, on est dans une situation où l'exposition externe est courte. En revanche, on l'a stockée dans nos tissus adipeux. On a une source interne qui, elle, est chronique. Et là, on a aussi un mécanisme de toxicité sur le long cours, mais avec une source qui devient une source endogène. Et je rappelle que le tissu adipeux, par rapport à cette exposition courte initiale, il a plutôt un rôle, je dirais, positif, là, en l'occurrence, puisqu'il vaut mieux que vos polluants aillent parfois dans votre tissu adipeux, même s'ils peuvent faire quelques dégâts, plutôt que dans le cerveau, ou dans vos gamètes ou ailleurs. Donc là, on a aussi quelque chose qui serait plutôt positif. En revanche, il y a une conséquence négative sur le long terme, puisqu'il va permettre de libérer, et ça devient une source chronique un peu à bas bruit. Troisième mécanisme, et qui est encore différent de l'autre, c'est le mécanisme qu'on appelle par programmation. Le terme peut être contesté, mais enfin bon, le principe est le même. Et là, c'est typiquement ce dont Claudine vient de parler. L'exposition va se faire à une période particulière du développement, par exemple une période sensible du développement. Donc c'est là qu'on a connu l'exposition à un produit chimique, à un perturbateur endocrinien par exemple. Et les effets sont différés, c'est-à-dire on ne va rien voir pendant de très nombreuses années. Et puis ensuite, on va avoir une susceptibilité accrue à l'obésité, au diabète ou au cancer. Là, quand on a le problème, on n'a plus du tout le polluant. Il est ni de manière interne, ni de manière externe. Donc le polluant ou le contaminant, il est parti depuis très très longtemps. L'exposition est de très courte durée, mais pendant une période de vulnérabilité tout à fait particulière. Et là, on peut l'expliquer par le fait que ce contaminant a modifié quelque chose dans notre programme génétique, épigénétique, éventuellement on peut avoir d'autres mécanismes, de telle sorte à ce que, ce programme étant différent, à l'âge adulte, il se manifeste devant une situation de stress nouvelle ou une alimentation nouvelle, et donc peut se manifester d'un point de vue clinique. Donc trois mécanismes relativement différents, mais qui pourraient, en tout cas en tant que modèle, expliquer ce phénomène de toxicité à long terme. Et donc on va s'intéresser beaucoup plus aujourd'hui à cette toxicité par différé, donc toxicité par programmation, qui est particulièrement difficile parce que, comme je vous l'ai dit, au moment où apparaissent les dégâts, le polluant, il est parti depuis très très longtemps. Et on avait pendant très longtemps pas de véritable mécanisme. On aurait pu envisager une mutation, donc un effet génétique tel qu'on a l'habitude de les envisager, mais malheureusement, en l'occurrence, beaucoup de ces contaminants dont on parle, les perturbateurs endocriniens, ne sont pas mutagènes, ils ne modifient pas les bases de notre ADN. Et depuis donc quelque temps est apparue l'épigénétique, on en a parlé, donc je vais aller rapidement sur l'épigénétique. Donc ce sont ces modifications qui entourent l'ADN, donc méthylation, qui peuvent affecter les histones ou qui peuvent affecter des petits ARN, et qui donc vont modifier l'expression de ce génome plus tard dans la vie. Donc ça va persister, c'est transmissible, c'est potentiellement réversible, mais c'est transmissible d'une cellule à une autre, et donc ils peuvent se manifester beaucoup plus tard. Et donc la plupart d'entre nous, la plupart des gens qui s'intéressent à ça vont travailler plus sur la méthylation. Les épigénéticiens, eux, travaillent énormément sur les histones et les petits ARN. Dans le milieu donc des toxicologues, beaucoup travaillent sur la méthylation, c'est parce que c'est devenu le plus abordable de nos jours. Et là, je vais prendre quelques exemples, plutôt que de parler de manière un peu théorique, je vais prendre quelques exemples de la littérature pour vous illustrer et vous donner quelques leçons à chaque fois de quelques expériences, qu'est-ce que ça a pu nous apprendre en termes de programmation. Le premier, ça va concerner donc, le tributylétain, ça a été mentionné tout à l'heure par Gilles, donc c'est un contaminant, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'en entendre parler, c'est dans les peintures des coques de bateaux principalement, et dans d'autres, ça peut être transmis autrement, et là vous avez une expérience d'une exposition in utero, donc pendant cette période fœtale, et on a observé ensuite la courbe de croissance scélérat ici. Et vous voyez que finalement, la courbe de croissance n'est pas tellement modifiée. Hein. Là, c'est le poids, si on ne prenait que le poids en considération, en l'occurrence, il n'est pas tellement modifié. En revanche, si on prend certains territoires adipeux, là, il y a une augmentation significative de certains territoires adipeux. Il faut croire qu'il y a d'autres territoires, peut-être musculaires, qui ont un peu diminué. Donc là, il y a un effet qui se manifeste de manière différée sur le tissu adipeux par le tributylétain. Et donc, c'est le laboratoire de Bloomberg qui a fait ces travaux. Et très récemment, ils ont publié un travail pour montrer que ça n'apparaît pas seulement tout de suite à la première génération, mais c'est transmissible. Et comme on vient de le voir tout à l'heure, on peut parler d'effet transgénérationnel parce que ça passe à la troisième génération. Hein, donc, c'est des choses qui sont observées à la troisième, qui continuent à être observées à la troisième génération. Et vous voyez que l'augmentation qu'on peut voir ici par les différentes concentrations de tributylétain, vous comparez ce qui est blanc et ce qui est coloré ici. Donc, il y a une augmentation de ce territoire adipeux. Vous pouvez aussi le voir à la troisième génération, donc aussi cette augmentation persiste. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne connaît pas bien le mécanisme, mais on a un effet sur l'augmentation de certains territoires adipeux qui persiste de génération en génération, alors que l'exposition a eu lieu de manière très, très focalisée et localisée à un moment donné. Ça n'atteint pas que le tissu adipeux. On a parlé tout à l'heure des effets sur le foie. Et vous savez que c'est extrêmement important en termes pathologiques. Et donc, chez ces rats-là, donc là, il faut regarder un peu la couleur qui foncée, qui reflète la présence dans le foie de triglycérides, c'est-à-dire le foie qui devient gras. Hein, c'est exactement ça. Ici, donc, vous avez la première génération. Et donc, vous avez, sous certains traitements, le foie qui devient, donc, qui accumule du gras. Et ça persiste. C'est peut-être un peu plus modéré, mais ça persiste aussi jusqu'à la troisième génération. Donc, un nouveau effet de type transgénérationnel pour le tributylétain. Et ce qui est intéressant pour le tributylétain, c'est qu'on commence à comprendre le mécanisme et on sait que cette molécule interagit avec un récepteur qui contrôle différentes fonctions du tissu adipeux. C'est ce qu'on appelle le récepteur, dans notre jargon, PPAR, et puis son copain, hein, c'est le récepteur RXR, et ils se mettent ensemble pour aller contrôler toute une série de gènes qui est représentée ici et qui contrôlent donc le programme du tissu adipeux. Donc si on perturbe, si ce tributylétain arrive à s'associer à ce récepteur et perturber ses fonctions, et donc va avoir une influence directe sur le tissu adipeux. Et donc ça, c'est un effet qui n'explique pas les effets épigénétiques ou transgénérationnels, c'est un effet qui explique le fait que le tributylétain modifie la différenciation des cellules du tissu adipeux et les rend plus riches en gras. Mais il y a d'autres études qui ont montré aussi que ce tributylétain est capable de modifier la méthylation de gènes, qui sont les gènes qui sont les cibles de ce récepteur PPAR. Donc ça rend sans doute ces gènes encore plus sensibles à l'action de ce récepteur. Donc il agit à différents niveaux et quand on affecte la méthylation, là, il y a un potentiel pour que ces effets deviennent donc épigénétiques et donc potentiellement transmissibles, donnant une toxicité différée. Donc il y a plusieurs niveaux d'action et on commence à arriver à décortiquer cet effet du tributylétain. C'est pourquoi je voulais un tout petit peu plus développer ici. Mais dans une audience comme ici, on ne peut pas ne pas parler du bisphénol A. Donc là aussi, il y a eu des travaux qui ont été faits sur le bisphénol A, des expositions des souris cette fois, toujours dans des périodes particulières donc du développement du fœtus. Et là, c'est le poids, hein, c'est le poids qui va être mesuré. Et donc, on va avoir une petite augmentation du poids donc chez les mâles et chez les femelles. Ici, c'est le bisphénol A. Ici, c'est le contrôle. Donc là, typiquement, exemple qui dit aussi que le bisphénol A a cette fonction de type, entre guillemets, obésogène. Hein. Obésogène, ce sont ces molécules chimiques qui, lorsque nous y sommes exposés, peuvent entraîner une augmentation du risque d'obésité à l'âge adulte. Donc, c'est bisphénol A comme obésogène. C'est une expérience. Alors, dans le domaine du bisphénol A, vous imaginez bien qu'il y a eu beaucoup de travaux hein, dans ce domaine. Et tout le monde ne trouve pas la même chose. C'est-à-dire, vous allez avoir des articles où l'exposition à des doses de bisphénol A augmente le poids ultérieurement. D'autres articles où il n'y a pas d'augmentation du poids. Certains articles où on augmente la résistance à l'insuline et d'autres où on n'augmente pas la résistance à l'insuline. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas nécessairement que les chercheurs ont mal travaillé ou qu'ils trouvent n'importe quoi et que c'est complètement artificiel. En science, c'est très fréquent de faire des expériences et d'un laboratoire à un autre de ne pas trouver exactement la même chose. Il y a de très bonnes explications. Il suffit que les conditions expérimentales ne soient pas tout à fait la même. Si on change de souche de souris ou on passe de la souris au rat, si on a une nutrition différente, hein, s'ils ont un régime différent, s'ils sont dans des cages de type différent, si on les met tout seuls dans une cage ou si on les met à plusieurs dans une cage, tout cela, ce sont des facteurs qui peuvent modifier les effets qui sont visibles et pour beaucoup d'autres choses, pas uniquement pour les perturbateurs endocriniens ou pour les polluants, pour des tas d'autres choses. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, ça veut dire que c'est vrai dans certaines conditions, et c'est un cas assez général, et ça veut dire que sans doute les perturbateurs endocriniens n'ont pas un effet indépendant de tout de la nutrition ou des conditions d'environnement autres de l'animal, mais que ça interagit avec ces conditions, et c'est cette interaction qui peut produire dans certains cas des effets, et donc ça nous pousse à faire plus de travaux pour comprendre quelles sont ces interactions. Je tenais à le signaler parce que c'est vrai qu'on trouve ça assez souvent, et il ne faut pas s'en étonner. Un des exemples, c'est qu'ici, vous avez le distilbène. Or, j'aurais pu vous montrer des expériences superbes où l'addition de distilbène pendant la phase périnatale entraîne une augmentation du poids des souris assez impressionnante. Et dans ce cas-là, dans cette manip-là, ça n'est pas le cas. Donc, vous voyez que ça peut différer. Il faut vraiment aller étudier les choses. Et au contraire, je dirais, ces contradictions nous apprennent quelque chose et non pas nous perturbent, si j'ose dire. Une illustration de type d'expérience que beaucoup de généticiens et d'épigénéticiens font pour étudier des effets de type épigénétique. Je vous ai dit, on insiste plus, par des raisons de commodité, sur la méthylation. Et là, on a une certaine souche de souris qu'on appelle agoutie, où la couleur du pelage dépend de la méthylation d'une zone du génome qu'on appelle IAC, peu importe. Si c'est plus ou moins méthylé, on a des souris blondes ou des souris brunes, en gros, pour résumer. J'espère que les industries de cosmétiques ne vont pas m'écouter aujourd'hui et ça va peut-être leur donner des idées. Mais en tout cas, on passe de souris, disons, jaunes à des souris plutôt marron foncé. Et en fait, souvent, dans une même fratrie, on a des variations parce que selon l'évolution de l'environnement, on a une mutilation plus ou moins importante et vous avez des souris blondes, des souris brunes et des souris avec des taches, avec un peu un effet donc sur le pelage, avec des taches blondes et brunes. Donc, c'est très simple. Il suffit de regarder le pelage et vous avez une idée de la méthylation de cette zone de l'ADN. C'est remarquable, c'est d'une grande simplicité. Plus compliqué que ça. Donc ici, vous avez, on a accouplé des souris, on a regardé la descendance et dans certains cas, on a traité avec du bisphénol A. Et vous voyez que, voilà la descendance de cet accouplement dans les séries normales, vous avez un peu de tout, des brunes, des blondes et des intermédiaires. En revanche, si vous traitez par le bisphénol A, vous avez plus de blondes que de brunes. C'est une proportion, c'est jamais à 100%. La proportion est plus élevée. Donc ça a affecté sans doute la méthylation de cette région du gène dont je vous ai parlé. Et ce qui est une preuve supplémentaire, c'est que maintenant, si vous rajoutez au bisphénol A certains suppléments vitaminiques qui modifient la méthylation, la capacité de méthylation, qui augmentent votre capacité de méthylation, et là, vous récupérez un profil de couleur, de pelage qui ressemble à la situation contrôle. Donc on voit bien que le bisphénol A modifié quelque chose dans la capacité de cette cellule à méthyler certaines zones de l'ADN. Un autre exemple, c'est la dioxine. Donc c'est un exemple plus local, mais c'est un travail fait par l'équipe de Skinner aux États-Unis. Ce qui est intéressant là, c'est qu'ils ont étudié l'ensemble des méthylations sur tous les chromosomes. Okay, donc ils ont traité par la dioxine et puis ensuite ils ont isolé des gamètes, ce sont des spermatozoïdes là qui sont étudiés, c'est l'ADN de spermatozoïdes, et ils ont étudié toutes les zones où il y a eu une modification de la méthylation et vous voyez qu'il y a de très nombreuses modifications de méthylation sur tous les chromosomes. Après, c'est pas localisé, ça touche à peu près tous les chromosomes et donc ça indique que l'effet est quand même relativement important. Et là, c'est dans la génération F3 qu'ils le regardent, donc là c'est transgénérationnel cet effet, et deuxièmement ce sont les spermatozoïdes et ça pourrait expliquer cet effet de passage d'une génération à l'autre, avec toute la prudence qu'il faut mettre là-dedans, parce que franchement les mécanismes sont loin encore d'être complètement compris, donc il faut prendre ces observations pour ce qu'elles sont, des observations et ensuite les explications, on viendra après. Donc, simplement, juste un rappel pour vous dire que pour méthyler de l'ADN, on a besoin des protéines, d'ailleurs, de cette molécule qu'on appelle SAM, S-adénosylméthionine, que cette molécule n'est pas toute seule comme ça dans nos cellules. Elle fait partie de voies métaboliques et les vitamines interviennent à ce niveau-là. Vous savez, voyez comment les vitamines peuvent affecter la quantité de cette molécule et donc potentiellement affecter la méthylation. De même, elle est connectée au métabolisme de la cystéine et de la méthionine et de la cystéine. Et la cystéine fait partie d'un système de défense contre le stress oxydant. Donc, vous voyez comment la méthylation peut être en relation avec l'apport vitaminique d'une part et une situation de stress oxydant dans les cellules d'autre part. Quelques conclusions. Certains perturbateurs endocriniens, je n'ai pas dit tous les perturbateurs endocriniens, l'affaire est à étudier au cas par cas. Il y a différents mécanismes. C'est pas parce que ça s'appelle des perturbateurs endocriniens que tous agissent de la même manière et vont avoir les mêmes effets, donc il faut faire un peu attention. Certains exercent un effet toxique différé, donc c'est phénomène de programmation, et donc modifient cette programmation. La période fœtale est particulièrement vulnérable, mais elle n'est pas la seule, et là les travaux continuent. Et un mécanisme épigénétique est probable, en tout cas nous donne quelque chose à étudier, à mettre en évidence. Mais il y a plein de défis pour la recherche, il y a plein de questions qui restent posées. C'est comment ces régulations épigénétiques donc normales sont-elles modifiées? Enfin, j'ai proposé un effet par le métabolisme, donc la SAM, mais bon, est-ce que c'est vraiment l'explication unique? Sans doute pas. D'où vient la spécificité de l'effet? Ça, ce sont des questions qui restent complètement posées. Pourquoi ces modifications affectent des pathologies futures? Quels sont les gènes qui ont été affectés et en quoi ces gènes vont affecter les problèmes futurs? Est-ce qu'il y a un effet adaptatif? Est-ce que c'est par hasard que quand on est exposé pendant la période fœtale à des produits chimiques, on va modifier la méthylation de notre ADN ou avoir des effets épigénétiques? Est-ce que c'est le hasard ou est-ce qu'il y a un phénomène adaptatif là qui est enclenché mais qui peut se traduire à long terme par un effet toxique? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de régler. Et puis, quelles sont les interactions avec les autres stress? On a vu que l'épigénétique, la méthylation est, disons, la cible de beaucoup de stress. Donc, c'est normal d'étudier les interactions entre les stress chimiques, les stress psychologiques, les stress d'origine physique, et tous peuvent converger à ce niveau-là. Et ça peut expliquer aussi pourquoi, comme je vous l'ai dit tout à fait au début, certains effets ne sont observables que dans des conditions expérimentales bien particulières. Donc, je pense, voilà, je m'arrête là. Merci de votre attention.